Les pieds sur terre, Sonia Krundlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est l'histoire d'un homme qui ne veut plus jamais avoir les pieds sur terre. Elle se passe à la fin du XVIIIe siècle en Italie. Le garçon a 12 ans lorsqu'un jour, ses parents tentent de le forcer à manger un plat qui le dégoûte. Des escargots fumants pour être précis. Le garçon prénommé Côme vit en Ligurie. Il quitte la table, sort dans le jardin et grimpe dans un arbre dont il ne redescendra plus jamais pendant 53 ans. Comme il est baron, on l'appellera le baron perché. Il apprendra à se promener d'arbre en arbre, à y construire une cabane, à chasser pour se nourrir, à tomber amoureux. Il y rencontrera des bandits, des pirates et même Napoléon. Bref, il y mènera une vie parallèle, autre, la même et différente, là-haut, dans les arbres. De nos jours, des siècles plus tard, à l'instar du héros d'Italo Calvino, grimper aux arbres, vivre avec et dans les arbres, prendre des bains de forêt, communiquer, voire communier avec les arbres, est devenu une passion si puissante que le livre « La vie secrète des arbres » s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires et a été traduit dans 32 langues. Une myriade d'activités a fleuri sur le thème, des stages d'observation, des retraites, des camps de ressourcement en forêt. L'histoire que nous racontons aujourd'hui en fait partie. C'est celle de Philippe, un homme actif, un décideur, un homme important, débordé, qui, comme le baron perché, décida un beau jour de tout quitter pour partir à la recherche d'un arbre et s'y reposer. Un arbre, son arbre, celui-là et pas un autre. Mais lequel et pour combien de temps, telle est la question. Ce sont ces aventures qui vous sont contées aujourd'hui par ceux qui les ont connues, lui et l'arbre. Une fable, un récit fantastique, un conte de Noël, en somme, accompagné de tous mes vœux, tout de suite dans les pieds sur terre, au cœur de la forêt alsacienne, par Sophie Knapp.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors cette forêt, c'est une forêt communale qui appartient à la commune de Ransbach, dans la vallée de Saint-Amarin. Nous sommes à la croisée de pistes de débardage, qui est comment dire, l'action de sortir les bois pour les mettre sur le bord des routes, pour que les camions puissent les transporter vers les scieries. On approche dans la zone où il y a des vieux chênes, des vieux hêtres, qui datent un peu de l'époque où toute cette zone basse de la forêt était en fait des pâturages communaux. Et donc c'est parmi tous ces arbres-là que j'ai dit à Philippe, ben voilà, c'est ta zone, tu vas où tu veux, c'était un peu brumeux. Et puis le premier jour où nous sommes venus en forêt ensemble, je l'ai laissé là. Je suis forestier à l'Office national des forêts dans la vallée de Tann-Saint-Amarin, dans le massif vosgien. Je suis en poste sur la commune de Ransbach, qui est une forêt donc, qui appartient à la commune. Donc je me prénomme Jean-Jacques. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis sur ce site-là. Et donc c'est un métier d'extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette profession-là. Donc on marche sur les pas de Philippe.
J'ai rencontré Philippe, c'était un client, et au fur et à mesure de ses visites au salon, nous avons sympathisé et lié d'amitié. Je m'appelle Patricia, je suis formatrice en coiffure à Paris. En 2016, suite à un chamboulement un peu dans sa vie, il a décidé de partir un petit peu dans la nature, être plus proche de la nature. Il m'a dit, écoute, Patricia, j'ai eu une vision, j'ai eu un flash. Je vois qu'il faut que j'aille dans une forêt en Alsace. Et moi, étant donné que j'avais mon amie Tania en Alsace, j'ai tout de suite fait le lien et je les ai mis en connexion tous les deux.
Je pense qu'en fait, Philippe avait besoin de,
de regarder la vie différemment et de se retrouver plus proche de la nature, de quitter en fait l'atmosphère parisienne. Moi, je le sentais très en souffrance, je le sentais dans une espèce de fatigue et d'agonie intérieure. Et dans la nature, il retrouvait qui il était, en fait. Hein. C'était sa survie à lui, en fait. Je suis Tania, et je suis créatrice de mode. Et j'habite à Ranspach, un petit village dans la vallée de Tann. La sensation qu'on peut éprouver ici, elle est systématique et elle intervient au moment où je sors du TER. Quand le train quitte le quai, on se retrouve tout d'un coup tout seul, avec plus aucun bruit, hormis celui du vent, des arbres, de la nature. Et du coup, on a le cheminement, en fait, jusqu'à chez soi, qui fait qu'on a l'impression qu'on nous enlève toute la pression qu'on peut avoir dans un quotidien. Et on arrive chez soi complètement en paix et libéré en fait de toute obligation, de tout stress. Et je pense que c'est ce que Philippe a trouvé ici. C'est comme si tout redevenait simple.
Donc en fait, c'est sur ce lieu là où nous sommes à quelques mètres près que je suis venu avec Philippe le premier jour pour lui montrer l'arbre. Je l'avais rencontré avant, mais pour lui montrer le lieu où sont les arbres, parce que j'en avais plusieurs et il avait un choix à faire suivant son ressenti. Et donc c'était un temps un peu comme aujourd'hui, pluvieux, un peu plus brumeux, un peu plus mystérieux encore. Nous sommes venus en forêt ensemble, je l'ai laissé là, dans les arbres et dans le brouillard. Il en semblait très satisfait et comment dire... comme s'il ouvrait une porte la porte d'une pièce pleine de découvertes potentielles. Philippe, donc c'est par l'intermédiaire de Tania qui m'a dit qu'elle avait rencontré Philippe lors d'un passage à Paris. Et elle m'a dit bah, il cherche un endroit où il faut des abeilles, un arbre et de l'eau. C'était pas très précis, c'était un peu comme une voix céleste qui le guidait quelque part. C'est une démarche qui m'a amusé, qui me plaît, parce que j'adhère tout à fait à ces raisonnements, disons, paranormaux, si on veut qualifier comme ça, qui ne semblent pas tenir debout, mais qui en fait ont des racines plus ou moins insoupçonnées. Alors voilà, on est arrivé sur le lieu. C'est ce grand être là qui est, je crois, l'arbre qu'il a choisi. Alors quand j'ai su que c'était celui-là, ça m'a un peu étonné, parce que je n'aurais pas fait ce choix. Mais après, je me suis dit, c'est ce qu'apporte d'ailleurs la confrontation avec les autres personnes, ça fait réfléchir sur ses propres façons de penser. Et ben, c'était son choix, il a ressenti différentes choses et il a choisi celui-là. Il m'a dit qu'il voulait écrire un livre, mais j'ai pas voulu non plus creuser dans le sens du sujet qu'il voulait développer. C'était pas mon rôle et je sentais que c'était pas forcément très défini. J'interprétais un peu dans le sens où il attendait que le milieu, dont l'arbre, qui semble être l'élément principal, lui transmette beaucoup de choses. Il a passé quelques nuits dehors au pied de son arbre. Je le voyais passer le matin un petit peu l'air défraîchi, après une nuit sans doute un peu inconfortable. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il a fait en forêt. Il m'avait fait un jour, il m'avait fait une réflexion qui était amusante, puisque j'avais en même temps une petite exploitation dans la zone, une exploitation forestière. Donc dans le cadre des exploitations, on est un peu obligé de sécuriser les chemins par rapport aux promeneurs et autres pour leur indiquer qu'il y a une exploitation. Et donc j'avais posé des panneaux, des petits triangles. Et donc quand il avait vu ce panneau, il a extrapolé un peu en disant que j'avais... Il me remerciait presque d'avoir fermé la forêt pour qu'il soit tranquille. Thank you. les sons que l'on entend dans la nuit peuvent être les mêmes que l'on entend le jour, mais les interprétations en sont différentes, ou les ressentis en sont différents. Alors il y a les cris d'animaux qui sont pas forcément les mêmes, parce qu'il y a les diurnes et les nocturnes. Les sons à l'automne, effectivement, il y a le brame du cerf qui est un moment particulier, qui est un beau moment. Mais les sons de la nuit, pour moi, et les formes aussi, parce que tout va avec, sont des moments qui sont plutôt de l'interprétation personnelle, parce qu'il y a une crainte, il y a tous les souvenirs d'enfants avec la nuit, le noir, et toutes les histoires qui peuvent se greffer dessus. Et donc on interprète davantage, parce que les formes et les sons sont plus lointains ou plus proches, on en mesure moins les distances, les formes sont plus incertaines, et donc on a un ressenti plus fort et plus vivant.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Stéphanie, j'habite le parc de Vaisserlin dans la Barrette, qui est un ancien habitat textile, une ancienne usine. J'ai rencontré Philippe un jour où j'étais à l'atelier de Denis Zimmermann, et Philippe et Tania sont arrivés. Et au fil du temps, on s'est liés d'amitié. On se croisait de temps en temps ici dans la Barrette, parce que Philippe habitait dans la Barrette aussi, au deuxième étage, ainsi qu'une amie à moi, et cette amie est décédée brutalement. Et Philippe a été là pour moi, dans tous les moments difficiles. Donc je savais qu'il avait eu des problèmes professionnels, et donc voilà, Philippe a découvert la forêt de Ranspach, à laquelle il s'est attaché, et surtout un grand être qui était un arbre extrêmement noble. Et il allait le voir régulièrement, et je pense qu'il y faisait des méditations et qu'il se posait là-bas, et ça lui a permis de trouver la paix et l'inspiration aussi pour son livre. J'ai vu au fil du temps de la présence de Philippe à Vaisserlin, je l'ai vu s'apaiser, s'ouvrir et se réaliser tel qu'il est et non tel que la société veut voir quelqu'un. Alors, nous voici au lac de Krutwildenstein. Actuellement, le lac est assez vide, dû aux nombreux mois de sécheresse que nous avons eu dans notre région. La dernière fois que Philippe est venu, nous avons marché, je dirais 3 à 4 heures, voilà, de nuit, à parler, à discuter, à se raconter en questionnement, en interrogation et en éléments de réponse par rapport aux interrogations de la vie de chacun. Voilà pourquoi Philippe m'appelle la chasseuse d'images. Quand je prends une photo, j'adopte des positions de prise de vue qui sont assez particulières. Et je me retrouve très régulièrement allongée sur le sol. Le jour de l'anniversaire de ma fille, nous étions au Grand Ballon. Et j'ai pris une photo de tous les convives dans ce pré. Et Philippe a pris une photo de moi où j'étais allongée dans les herbes. Il m'a appelée la lionne photographe. Un jour, Philippe me dit, j'ai ma sœur qui vient, j'aimerais te la présenter. Je lui dis, mais on pourrait faire un pique-nique en forêt, ça te dirait, en haut, dans un refuge, là, dans la forêt de Ranspach. Donc, course faite, nous prenons la voiture et nous arrivons
à ce refuge. Nous décidons d'allumer un feu. Et au moment où le feu commence tout juste à prendre, une énorme averse. Mais ce feu continue à se développer, et nous permet d'avoir de la chaleur. Et à un moment donné, bon, nous étions en train de manger dans le refuge, parce qu'il crachotait un peu, la pluie, la nuit tombait, et Philippe décide d'aller faire un petit tour en forêt, parce que voilà, il en avait besoin, il a besoin de se retrouver dans cette forêt de Ranspach. Et à un moment donné, en lisière de forêt, des silhouettes assez particulière, et commence une sensation de malaise et d'oppression. Et moi, je ressens de la forêt cet ordre, laissez-nous, maintenant laissez-nous, partez, c'est le moment de partir. Et je dis à Odile, rangeons les affaires, nous partons. Et Odile me dit, mais pourquoi ? Et je dis, juste, partons. Et au moment où se passent quelques minutes, et au moment où je pose le dernier panier dans la voiture, Philippe arrive, il sort de la forêt, et il dit « On s'en va, partons ». Nous montons dans la voiture, et toujours cette oppression, presque la sensation qu'on poussait la voiture derrière. Et je dis à Philippe et à Odile, « Quand on croisera une biche et une chouette, nous serons sortis de l'espace où nous ne sommes plus les bienvenus. » Et nous descendons cette route forestière. Et au moment où nous arrivons, où il y a le bitume, sur notre gauche, des yeux brillent avec les phares. Trois biches traversent la route et une chouette les suit.
Comme un ange qui est venu dans mon atelier, comme ça, le visage d'un ange. J'ai l'impression qu'il était vraiment, en venant ici, dans la découverte d'une soif, comme ça, d'un désir de changer de vie. Et il m'a raconté, en fait, son histoire, son parcours, qui était assez dur, je trouve, de ce qu'il a vécu, mais je trouve qu'il a pris des décisions vraiment belles. Je m'appelle Denis Zimmermann, je suis peintre, j'habite aujourd'hui à Vaisserlin, mais je suis originaire de la vallée. En fait, j'ai rencontré un homme, enfin une personne un peu paumée, quoi, et qui avait besoin de recréer des liens, avec la nature, avec l'essence des choses, et un territoire humain, en fait, avoir des amis. Voilà, après, on s'est rencontrés bien sûr plusieurs fois, et je l'ai emmené sur un de mes derniers projets avec des élèves sur un site mémoriel très sensible, ça l'a aussi touché. Alors ici, on est à Urbès, on est précisément dans le bunker qui est à l'entrée du tunnel d'Urbès. Philippe, je voulais absolument lui montrer ça parce que c'est un lieu est très fort en fait en lien avec notre histoire. Ce tunnel, il a été creusé à 4 km sur 8. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont réquisitionné ce lieu pour en faire un lieu de travail, de fabrication, bien sûr, dans le tunnel, essentiellement des moteurs d'avion pour la Luftwaffe et c'est Daimler-Benz qui avait ce marché. C'était une bonne cache. C'était un endroit qui finalement n'était pas très visible et qui était immédiatement accessible malgré l'inhospitalité du lieu, surtout pour y travailler avec l'humidité, enfin l'eau qui ruisselle, le froid, la boue. C'était un des 70 camps annexes, de camps de travail annexes de Natsuler Struthof, qui était un peu le haut lieu qui organisait ce dispositif terrible. Alors il y avait essentiellement des déportés qu'on faisait revenir d'Allemagne, d'autres camps, et aussi bien sûr des gens qui étaient dans le camp Struthof. Ces ouvriers, ces détenus, ils étaient dans un camp en contrebas. Ce camp était organisé comme un camp concentrationnaire en réalité, parce que ça c'est assez important de le dire, de faire cette relation. Et sur les frontières et les limites exactes, les limites cadastrales exactes du camping d'aujourd'hui. Et du coup, Philippe, il était tellement sensible à ce qui s'est passé aussi ici. Je me semblait important de lui montrer ce lieu, enfin aussi parce que ce lieu, moi, je l'ai aussi investi avec des élèves et d'une manière assez forte, il me semble. L'idée, c'était de se mettre en questionnement toujours par rapport au monde d'aujourd'hui et de l'histoire de l'Alsace où... il y a aussi, c'est quelque chose qui est très très fort, très prégnant, on est vraiment tous concernés, c'est l'incorporation de force. Voilà, donc les malgré nous, d'évoquer ça, de profiter de ce lieu, de cette époque, de notre histoire, pour évoquer l'incorporation de force, où tu es, toi, incorporé de force aujourd'hui. Presque à la même échelle de quelque chose qui pourrait aussi être génocidaire.
La première fois que j'ai rencontré l'arbre de Philippe, hein, c'était avec Patricia et
Tania,
que j'ai réussi à faire venir ici, parce qu'il faut savoir que mes amis avaient du mal à imaginer venir jusqu'ici. C'était un peu le bout du monde. Donc là, c'était le miracle. Patricia, pour Philippe et pour moi, est venue. Et du coup, il était indispensable que Philippe lui montre son arbre. Alors, il nous a juste invité, il nous a dit, ben tiens, pour communiquer avec lui, tu te couches par terre, tu enlèves tes chaussures et tu poses tes pieds sur l'arbre et comme ça, tu vas avoir toute son énergie qui va t'envahir et qui va te nourrir. Donc, on s'est déchaussé, Patricia comme moi, à l'automne, couché dans les feuilles. Et Patricia, il faut savoir qu'elle déteste les araignées, donc je l'ai pas sentie très très détendue dans l'idée de se coucher dans les feuilles et de se mettre pieds nus contre cet arbre. On a bien rigolé et on a joué le jeu. Je sais pas si on a vraiment ressenti en fait les vibrations de cet arbre parce qu'on était un peu comme des enfants dispersés dans une cour d'école, mais on a passé un super moment et on a partagé quelque chose tous les trois. C'était ça le plus important. Je sais qu'en fait, il a énormément construit ce projet de livre, mais qu'il a jamais réussi à aller au bout. Aujourd'hui, je me dis, c'était peut-être juste quelque chose dont il avait besoin. Il avait besoin de construire quelque chose pour le futur. Et finalement, je me dis que ça n'a pas tellement d'importance si ça n'a pas abouti, parce qu'en fait, l'essentiel, c'était qu'il se reconstruise. L'arbre de Philippe avant qu'il ne s'en aille, il y a eu une grosse tempête et l'arbre s'est brisé. Et du jour au lendemain, il m'annonçait qu'il partait, il a déménagé et il est parti à Amsterdam.
Moi, ce qui m'a plu, ce que je regrette par rapport à ça, c'est de ne pas avoir plus pu lui raconter ma propre histoire dans ce territoire et comment j'ai grandi ici. Et ça, c'est quelque chose que je regrette, qu'on n'ait pas eu plus de temps plus intime comme ça. Après, son regard à lui en venant ici, bien sûr, moi, ça me fascine toujours quand, entre guillemets, parce que c'est pas un Parisien, je pense. Mais quand un Parisien vient, et quand un Parisien est touché par notre histoire et nos paysages, moi, je trouve ça beau parce que c'est une sacrée transmutation, quoi. Ça m'a révélé que ça, c'est possible, en fait. Et du coup, ça, il m'a enrichi de ça, et il m'a enrichi d'aimer ce qui se passe chez moi, d'aimer mes paysages, d'aimer ma forêt. Et ça, c'est carrément magnifique.
C'était L'homme et l'arbre, un reportage de Sophie Knapp réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Tania, à Jean-Jacques, à Yoshiko, à Patricia, à Stéphanie, à Denis, à Irina, à Wolf, à Arlette, à Jean-Claude et bien sûr à Philippe, l'homme de l'arbre, tous mes vœux de Noël aux auditeurs des Pieds sur Terre. En podcast, en direct, en ligne ou bien comme vous voulez. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre et Camille Richir, notre stagiaire. As it seems.